RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story et les GG vous salue. Bien le bonjour, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Tu pourrais être plus enthousiaste, le PSG est qualifié pour les demi-finales Ligue des Champions.
Non, parce que je sais que je suis entouré par des gens que ça intéresse pas. Je viens de demander à Laura si elle a vu le match.
Je sais qu'il y a eu un doublé, c'est déjà pas mal.
Alors, elle sait que c'est un doublé, Charles, c'est même pas ce qui s'est passé hier soir.
Non, je t'avoue que non.
Didier, il aime bien battre les Anglais, mais au rugby.
Oui, non, mais c'est bien. Ousmane Dembélé retrouvé, enfin non, c'est bien. C'est bien si Paris fait le doublé, enfin double sa victoire.
Enchaîne.
Ouais, c'est quand même un truc rare, quoi, je veux dire.
Voilà, bah calme ta joie.
Faut aller gagner à Munich maintenant, ça va être une autre
perte. Si c'est Munich qui se qualifie face au Real.
Je me souviens que l'année dernière, ça avait fini au tir au but. Hein.
Ah ben, vous voulez l'énerver de bon matin, c'est ça?
C'est bien. C'est vrai, non?
En tout cas, bravo Paris.
Bravo Paris, effectivement. Ça, ce sera à commenter toute la journée, bien sûr, sur RMC à partir de 15h avec le Super Moscato Show. Ensuite avec Rotten. Et puis dans l'after, ça, c'est la Ligue des Champions telle que vous la vivez à la radio avec toute l'équipe, toutes les équipes d'RMC. De quoi va-t-on parler, nous, aujourd'hui, dans les GG, dans les grandes gueules? Bon, on a des sujets qui sont là pour nous énerver, pour nous agacer. La dette à rembourser, les retraités, en fait, qu'est-ce qu'ils préféreraient? Raboter leur retraite ou travailler plus longtemps? Le carburant, on a le dispositif sur lequel travaille le Premier ministre Le Cornu pour faire baisser les prix. Franchement, t'as beau le lire et relire,
tu comprends pas. Non, c'est pas
tu
pas
ne
pas.
Comprends
c'est
rien.
C'est fait exprès.
Justement, donc est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de nous? Mais alors, on a une petite histoire là pour commencer à vous raconter. Une histoire de l'industrie française des tapis roulants de la station métro Châtelet à Paris. Ceux qui la connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est à découvrir. La station Châtelet, à Paris, a quasiment les tapis roulants les plus longs d'Europe, si ce n'est du monde. C'est la station souterraine, d'ailleurs, je crois, la plus importante au monde.
Oui, la plus grande gare souterraine du monde. Elle se trouve à Paris, c'est Châtelet-Léal, parce que il y a 16 bouches d'accès, 7 quais, des centaines de métros qui passent à Châtelet-Léal, des RER, ouais, A et B. 27 millions d'usagers par an, c'est pas rien. Et depuis octobre dernier, les tapis roulants de cette station Châtelet sont à l'arrêt. Alors au départ, la RATP avait dit on va réparer d'ici le printemps. Déjà, le délai est assez long. Puis finalement, ça sera pas avant septembre prochain. Il y a 2400 pièces à changer. Les pièces, on ne les a pas, il faut les commander, etc. Après, il faudra les assembler, il faudra vérifier que tout ça a bien été fait. Et c'est une anecdote qui en dit long sur l'état de la France. En tout cas, c'est ce que pensent plusieurs hommes politiques comme Jordan Bardella et Éric Zemmour qui ont réagi à cette info. Un an pour réparer un tapis roulant car les pièces ne sont pas disponibles. Il faut des expertises, des contrôles interminables. Une anecdote qui en dit long sur l'état de la France en 2026 entre désindustrialisation, déclassement et absurdistan normatif. Voilà ce que tweet notamment le président du Rassemblement National.
Oui, parce qu'il a fallu trouver un nouveau fournisseur qui a lui-même dû concevoir de nouvelles pièces pour la palette, il a fallu les fabriquer. Donc en fait, on était en rade de pièces, quoi, Didier Giraud.
Bah, moi, je trouve que c'est une coproduction assez française entre la France et l'administration, quoi. Celle qui crée les normes. Et cette France qui s'est désindustrialisée, on dit ce qu'on veut, mais c'est un fait. Aujourd'hui, la France est désindustrialisée. Donc, je présume que le fabricant de pièces n'existe plus. Il a fallu recréer. Après, quand on va vouloir assembler, le mec qui possède la crête 13 va être en RTT ou en arrêt maladie. Donc, derrière ça, on la connaît, l'histoire. Enfin, on sait comment ça se passe, quoi. Hein. Essaie seulement d'avoir une administration au téléphone. Tu vas comprendre ta douleur, déjà. Donc, à un moment donné, comme tout fonctionne comme ça dans notre pays, eh ben, c'est complètement logique. Je suis même pas étonné qu'on en arrive là.
Il faut quand même aussi 27 millions de gens qui passent.
Hein. Non mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des tapis roulants qui ne roulent pas. Les usagers et quand les gens sont exaspérés de payer des impôts Et ben, je pense qu'on est complètement là-dedans.
Et de voir
là-dedans.
Le prix des tickets augmenter chaque année.
Et on est complètement là-dedans, quoi. On est dans un truc où payer, c'est pas un problème si ça marche. Mais là, t'es dans un truc qui marche pas et c'est de la faute à personne. Et tout le monde s'en fout. Et derrière ça, bah, ça prend du temps, quoi. Je pense quand même que cette France des normes, elle aura un bout, quoi. Alors, j'espère que je vivrai assez longtemps pour le voir. À un moment donné, les strates dans toutes les administrations et dans tout ce qu'il y a en France, les strates de gens improductifs qui créent de la norme, qui créent de la contrainte, il faudra que ça s'arrête parce que c'est quand même ça qui nous fait dépenser un pognon de dingue, quoi.
Un an pour réparer des tapis roulants. Enfin,
non, mais c'est-à-dire d'abord,
c'est
il a fallu
quand même un truc de dingue.
Il a fallu d'abord les experts,
oui.
Mandater des experts.
Alors déjà, faut les trouver.
Qui ont cherché d'où venait la panne. C'est là qu'on a ensuite trouvé que c'était un problème de palette et tu ne pouvais pas le faire fonctionner les escaliers roulants de manière partielle. Il faut tout arrêter dans ces cas-là.
Et du coup, je vais te donner quand même juste un dernier petit exemple. On a maintenant, alors ça coûte un pognon de dingue aussi, mais on a dans le matériel agricole aujourd'hui des capteurs. Sur une moissonneuse batteuse, par exemple, neuve, quand il y a un roulement à billes qui lâche, l'usine est prévenue avant qu'il ait lâché, quoi. Quand un roulement à billes est en train de lâcher, il se met en commande avant qu'il ait lâché, quoi.
Ça, c'est bien, ça.
Voilà. Donc, si on est capable de faire ça sur une moissonneuse batteuse, tu m'expliques pourquoi faut un an pour réparer un escalator.
Charles. En tout cas, à l'étranger, ça ferait marrer tout le monde. Faut dire les choses comme elles sont. Il y a beaucoup de pays dans le monde dans lesquels, si vous avez un escalator défectueux, le lendemain, l'escalator est réparé, remis en marche. En Chine notamment, en Chine où ils sont capables de construire des hôpitaux.
En 15 jours,
ils vous construisent un hôpital. Nous, il faut au moins 15 ans. Hein, et c'est pareil pour des escalators. À Dubaï, qui est très stigmatisé, il y a le moindre problème sur un immeuble qui tombe, un ceci, un cela. C'est réparé très, très rapidement. Donc, oui, on est un peu désemparé devant cet enlisement de la France dans une forme d'incapacité à agir. C'est assez consternant.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le manque de respect vis-à-vis du client? C'est-à-dire, est-ce que la RATP...
Bah, RATP pas client.
D'ailleurs, on ne dit pas client, on dit usager. Donc déjà, c'est un signe. Mais voilà, est-ce que tu dois tout faire pour le client, pour satisfaire le client dans une entreprise de service?
J'attends ce matin, je vous propose que nous lancions ce matin... un appel à Jean Castex, président de la RATP.
Non, maintenant il est à la SNCF.
Ah oui, c'est vrai qu'il est à la SNCF. Oui, mais quand même, il était à la RATP. Qui est président de la RATP maintenant?
Alors, je vais te dire.
C'est Monsieur Vautrin.
Monsieur Vautrin?
Non.
Le mari de Catherine
Vautrin? Parce que Vautrin ne marche plus. Bon. Monsieur Vautrin.
En tout cas, nous allons trouver son nom. Mais je lance un appel au président de la RATP.
Écoutez, quand
je veux dire que c'est pas normal que la station la plus fréquentée de Paris, dans laquelle passent non seulement des Parisiens, mais des gens de la région parisienne, des hordes de touristes, des gens extrêmement nombreux, un changement d'ailleurs qui est très long. Justement, quand on doit passer par ces couloirs où il y a les tapis roulants, ils sont là pour aussi t'aider à accélérer le mouvement parce que le changement sinon est interminable. C'est pas normal, avec tout le pognon qu'on met dans cette boîte et tous les gens qui utilisent cette boîte, qu'on sache pas réparer en une semaine un tapis roulant.
Laura?
Oui,
connais cette station?
Oui, Châtelet, ouais. Oui. Et moi, j'ai pris la ligne A pendant des années, donc, et je descendais à Châtelet-Léal. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça étonne encore quelqu'un? Je veux dire, c'est le principe de la France. On attend que les choses aillent mal pour s'en préoccuper. Il n'y a jamais d'anticipation dans ce pays. Jamais, jamais, jamais. On ne se préoccupe jamais de voir les choses arriver. Et donc, on se les prend en pleine face. Et on se rend compte qu'on n'est pas préparé. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, les tapis roulants, c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer. Là, on est en train de hurler à dire que le taux de suicide chez les fillettes de 10 à 14 ans augmente de plus de 17%. Bah oui, mais en même temps, on n'a rien investi pour la santé mentale. Je parle de nous. Nous, avant, on était RNCP, on était reconnus par l'État, on était remboursés par la Sécurité sociale. Maintenant, pour faire des économies, tout ça, c'est fini. Donc.
Pays parabolo. à tous les niveaux, c'est ce que je veux dire.
Non, c'est-à-dire qu'on n'anticipe rien, jamais rien, on ne pense jamais à long terme.
Et je ne sais pas si c'est que l'anticipation.
Alors, j'ai
le nom du... C'est la panne. Non, moi, je crois
c'est le nom du président de la RATP, si ça vous intéresse.
C'est la France des normes, quoi. On ne peut pas croire qu'on additionne des normes et des cadres improductifs qui pondent chacun leur petit toit.
Alors, son nom, c'est Xavier Piechassigs. Je ne sais pas si je prononce bien.
Il fait exprès d'avoir un nom imprononçable.
Alors, c'est assez amusant. Alors, c'est un haut fonctionnaire. Voilà. Comme les autres.
Étonnant.
Mais qui a été notamment le président de RTE, qui, la gestion du réseau électrique français. Et alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand il est arrivé, il a dit quelles sont mes priorités pour la RATP ? Améliorer la qualité de service.
C'est bien.
Réduction des pannes et incidents.
Parfait.
Meilleure information voyageurs et ponctualité des métros et RER.
Allez, voilà.
Impeccable.
On est bon.
Allez-y.
Non. On a Alexandre qui veut réagir. Il nous appelle de Poitiers. Bonjour Alexandre.
Bonjour à tous. Je prends l'antenne.
Mais je vous en prie, merci d'être avec nous. Que pensez-vous de cette histoire des escaliers roulants, des pièces à commander ? Dites-moi.
Merci de me donner 2 minutes et j'ai 2-3 trucs à dire. Ça me fait rire. Et
hier,
j'ai écouté votre antenne et ça m'a mis en colère, ou avant-hier, avec l'histoire du professeur. Et là, ça me fait rire parce que, je suis pas parisien, dans le coup, je me taperai pas tous ces kilomètres à marcher. Et si je peux reprendre mes propres mots à l'antenne il y a 2 mois lors de l'épisode de Neigeux, je vais redire les mêmes. On vit dans un pays du tiers-monde. Et ça me fait rire parce qu'il y a aussi le deux poids, deux mesures et suivant à quelle échelle sociale vous êtes traité d'une manière différente parce que, croyez-moi bien que si c'était un homme politique qui se tapait cette ligne de métro tous les jours, ce serait très très vite réparé. Et ça me fait rire parce qu'on est, je reprends les mêmes mots qu'il y a 2 mois, on est dans un pays qui est gouverné par des incapables, avec un millefeuille administratif qui sert à rien et qui coûte une fortune. Et dans d'autres pouvoirs aussi, dans d'autres pays, comment ça serait géré? Et dans d'autres pays, ça serait géré bien différemment. En Chine, ils géreraient ça plus rapidement, au Japon pareil, et les incompétents seraient virés sur le champ. Et puis nous, en France, on s'en fout, parce que c'est pas nous qui payons, c'est les contribuables. Mmh. Et puis comme on prend pas le métro, on peut se permettre d'attendre 1 an. Donc ça me fait rire, parce que si on était géré aussi par des chefs d'entreprise qui ont une expérience de la vraie vie, ce serait géré beaucoup plus rapidement. Moi, ça fait 15 ans que je suis à mon compte, ça fait 15 ans qu'on m'appelle pour trouver des solutions. Et si je trouve pas de solution, on se sert plus de moi. Donc ça me fait rire. Parce que c'est...
Ça fait rire ou pleurer d'ailleurs, Alexandre.
Oui, mais il faut peut-être mieux en rire parce que les news sont quand même pas rassurantes en ce moment. Et là, ça me fait rire parce que on dit 1 an, mais on parie quoi que ce sera 1 an et demi? Parce qu'il y aura du retard, parce que ça va coûter plus cher que prévu, parce qu'il y aura des têtes qui auront changé entre temps. Et je me dis que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe parce que il y a 60 ans, 40 ans, 50 ans, on était la deuxième puissance mondiale, on innovait sur tous les domaines, on était fort, on était respecté, on était regardé. Aujourd'hui, on est la risée du monde sur le plan diplomatique, sur le plan de l'industrie. On nous vole les technologies qu'on a. On n'a plus de cerveau dans les écoles. C'est drôle. Il vaut mieux en rire.
Alexandre, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, justement, c'est qu'il y a un autre problème qui va arriver très bientôt à propos toujours de ces tapis roulants. C'est-à-dire qu'au moment où les réparations vont commencer, on va bien évidemment empêcher que l'on marche sur les tapis roulants. Et donc, il va falloir gérer
les... On peut marcher à côté, je crois,
normalement, oui. Et c'est justement...
C'est les flux, le problème.
C'est les flux. C'est comment on va gérer le flux des voyageurs, là où on va neutraliser, si vous voulez, les tapis roulants pour pouvoir...
Je pense que c'est le cas de leurs soucis.
Vous avez 27 millions de gens qui passent par an, ça va être compliqué.
Le problème, ça a été exactement le même sur les centrales nucléaires. À un moment donné, on savait qu'elles étaient à remettre en état.
Zéro,
on a attendu que tout soit arrêté.
Zéro.
Et d'être en pénurie
zéro anticipation. Là où moi je rejoins Alexandre.
Pour dire on va les réparer. Donc
oui, là où je rejoins Alexandre, nous en tant que chef d'entreprise, et peu importe que ce soit en libéral, commerçant, artisan, ce que tu fais, c'est que tu anticipes le risque. Tu anticipes la perte de chiffre d'affaires. Tu anticipes que ton matériel ne soit pas défaillant pour que ça ne pallie pas à ton activité. Donc nous, on est capable constamment de trouver des solutions et de se réinventer et de faire en sorte de pallier... Mais peu importe si t'as le monopole, à un moment donné, t'es payé pour.
Non,
t'es
la RATP
pour.
Agit... Ils ont le monopole, je veux dire, quoi qu'il arrive, il y aura toujours 27 millions d'usagers par an qui prendront cette gare parce que les gens
et
n'ont pas le choix.
Tu arrives à te satisfaire de cette
Donc
réponse.
La RATP se dit, on s'en fout finalement, on peut obliger pendant près d'un an nos usagers à marcher à pied, à pas prendre les tapis roulants. On s'en fout parce que de toute manière ils seront là, ils payeront leur passe Navigo, ils payeront leur ticket.
Je suis d'accord avec toi, sauf que la différence avec le Japon, non, la Chine,
s'il y avait une concurrence,
nous les incompétents sont pas virés.
Non, mais c'est pas ça.
Alexandre, il a raison, quoi.
Moi, je pense que c'est vraiment le mépris du public. C'est-à-dire que s'il y avait véritablement une concurrence, si effectivement la RATP devait se battre pour garder des clients, je peux te dire que il ferait tout pour satisfaire ce client. Là, le client est finalement secondaire dans l'histoire. Ce qui compte, c'est respecter
les
normes.
Celui qui fait tourner le métro à Tokyo, il est aussi en phase de monopole, quoi. Sauf que l'incompétent qui est censé faire tourner le tapis, s'il dégage au bout de 15 jours,
c'est pas ça.
Je suis sûr que ça va se manger.
Non, parce qu'à Tokyo, ils ont le sens du service. Ce qui est important, c'est la satisfaction du client. Moi, je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit, mais en France, on n'a pas seulement dans ce domaine-là.
On a Alexandre qui était à la fois affligé et puis préférant rire. On a Laurence qui, elle, est en colère. Elle est du côté de la Loire-Atlantique. Laurence, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Pourquoi cette histoire de tapis roulant qu'on n'arrive pas à réparer ou qu'on met un an à réparer vous fait réagir du côté de la Loire-Atlantique, dites-moi?
Parce que devant ma boutique que j'ai ouverte en janvier 2025, parce que je ne trouvais pas de travail hein, après une petite histoire, j'ai donc eu le courage, j'estime, d'avoir ouvrir ma boutique de fleurs. Et depuis plus d'un an, en fait, pour un branchement de caméra, j'ai eu le droit à un monticule de terre. Là, j'ai des barrières qui se relancent, je ne sais pas pourquoi. Le trottoir est du coup pas bien remis, les gens peuvent même tomber. Et ça fait plus d'un an que ça dure, en fait.
Un an de travaux devant chez vous?
Oui, oui. Plus d'un an de travaux devant chez moi.
Vous mettez des caméras?
Oui, pour brancher des caméras, oui.
Et que vous dit la municipalité?
Ah, bah qu'ils sont clients. Hein, que c'est pas de leur faute, que c'est inédit. Et puis une autre entreprise qui, visiblement, ne s'entendent pas ou ne font pas ce qu'il faut. Voilà.
Et donc, vous êtes pénalisé pendant ce temps?
Ah ben oui, parce que des fois, on nous bloque je ne sais combien de places de parking, et là encore, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça, on bloque des places, il ne se passe rien. Comme je vous dis, il y a un beau monticule de terre, c'est même d'autres commerçants qui étaient navrés pour moi, hein, pour la Saint-Valentin, qui ont été dire à la mairie que c'était inadmissible. Ouais. Tellement moi, j'en pouvais plus, je préférais garder ça pour moi et me fixer sur mon travail. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'à Paris.
Donc c'est pas qu'à Paris qu'il y a ces problèmes, ces méandres de l'administration, parce que c'est lié à l'administration.
Regardez aussi ces chantiers interminables. Enfin, tu traverses ces villes, t'as des chantiers qui n'en finissent plus, et tu sais pas qui gère. Pourquoi il y a pas de
qu'on
n'impose pas des délais, une espèce de cahier des charges.
Laurence, Alexandre, mais je vous remercie d'avoir été avec nous tous les deux. Merci Alexandre, merci Laurence, et bon courage. J'espère que ça va se terminer bientôt. Laurence, n'hésitez pas à nous envoyer un message à ce moment-là sur l'appli RMC et l'appli des GG. Est-ce que c'est symptomatique de la France d'aujourd'hui là? Ce problème, cette galère pour les tapis roulants du métro Châtelet, c'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Vous dites oui à 88%. On peut lier le sujet suivant d'ailleurs, parce qu'on va vous lire précisément le mécanisme que le gouvernement veut mettre en place.
Bon courage.
Veut mettre en place pour faire baisser le prix des carburants, c'est-à-dire l'encadrement de la marge des distributeurs. Et ça aussi, c'est assez croquignolé. À moins qu'on se foute de nous. C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les grandes gueules. Il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story Radio et télé pour les grandes gueules. Tous les jours avec vous, bien évidemment, au 32-16. Nous sommes avec Laurent Barton-Martinez, sophrologue, Didier Giraud, agriculteur, et puis Charles Consigny, avocat. Dans les GG, on va vous parler maintenant du dispositif d'encadrement des marges des distributeurs pour faire baisser le prix des carburants.
Bonjour.
Attention, ce n'est qu'à l'état de projet, un projet qui doit être soumis à l'avis du Conseil national de la consommation et ensuite du Conseil d'État.
Oui, alors on va pas rentrer dans le détail parce que...
Dommage.
De l'avis même du secteur, c'est une usine à gaz. Je vais vous citer Francis Pousse, président du syndicat professionnel Mobilian, qui représente 5800 stations en service traditionnelles, donc il sait de quoi il parle. Il dit c'est une usine à gaz qui va pas permettre précisément de savoir où on va. Et qui ne, finalement n'apportera pas grand-chose pour le consommateur. Voilà, donc c'est plié. Alors, il faut savoir quand même que le gouvernement, pour l'instant, c'est un décret. C'est même pas mis en service, hein, cette mesure. C'est un projet de décret qui, en fait, une façon de faire pression sur les distributeurs en disant « Attention, on pourrait dégainer notre décret si vous abusez sur vos marges » parce qu'on estime que, et ça, le gouvernement n'a pas tort, c'est que quand le prix du baril augmente, eh ben ça monte très très vite dans les stations-service et quand le prix du baril baisse, ça baisse beaucoup plus lentement. Le prix du baril, je crois, ce matin, était en dessous de
100,
était
à 95.
Bon, c'est pas non plus très bas, donc les prix vont rester hauts. En fait, ça fait 50 jours que le gouvernement ne fait rien de spécial pour les automobilistes. Donc 50 jours pour pondre ça, est-ce que c'est vraiment utile ?
Alors, juste quand même, je ne voudrais pas bouter mon plaisir.
Tu veux quand même rentrer dans le détail ?
Le dispositif prévoit que le prix de vente autorisé devrait être calculé en tenant compte du prix de référence quotidien de l'essence ou du gazole, calculé sur la moyenne lissée des 5 derniers jours ou des 5 dernières cotations sur le marché de Rotterdam.
Voilà.
Allez, bon appétit.
En évitant les situations abusives durant les des hausses de la journée. Voilà. Ça vous va comme explication ?
On comprend rien.
Bah, c'est pour ça que moi je m'étais pas aventuré. Je savais quand même.
Ah non, mais tu ne comprends rien. Moi je l'ai lu pour préparer. J'ai eu beau me concentrer, j'ai rien.
On va tenir compte du prix de référence quotidien de l'essence ou du gazole calculé sur la moyenne lissée des 5 derniers jours sur le marché de Rotterdam.
Ça veut dire ce que ça veut dire.
Est-ce que c'est pas fait exprès surtout ? Pour dire de toute manière, on ne veut pas dépenser d'argent public, donc pas de ristourne. D'ailleurs, le prix du carburant baisse tout autour de la France. Hein. Tous les pays autour de la France ont proposé des ristournes fiscales, etc. Nous, on dit non. Bon, ben voilà. Donc
non,
on aboutit à ce genre de problème.
De toute façon, c'est fait exprès. Ils nous sortent des trucs complètement alambiqués pour noyer le poisson. Moi, ce que je vois surtout, c'est que en fait, ça va surtout être pour les pompistes. C'est-à-dire que le mec de sa station, moi, de tous, parce que pour le moment, on est tous devenus un peu des experts du traçage du baril jusqu'à notre essence, enfin jusqu'à notre réservoir. Et de ce que moi j'ai vu, le pompiste, en général, brut, c'est une marge de 3 centimes, ce qui lui fait à peu près un revenu net de 1 centime. Donc je ne vois pas comment, même en encadrant très 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 fort le prix du pompiste, je ne vois pas en quoi ça va changer notre vie sur notre carburant. Et ce que je remarque aussi, c'est que quand au tout début, on avait parlé de spéculation, des raffineurs, etc., on m'a insulté, tu es une communiste, il faut laisser le marché se libérer, il faut laisser la concurrence, etc. Donc quand on s'attaque à Total, on est des communistes. En revanche, quand il s'agit d'encore plus asphyxier les pompistes indépendants qui se font déjà la guerre entre eux pour essayer de s'en sortir, là, c'est du bon sens. Et encore une fois, on ne baisse pas la TVA, on n'enlève pas la taxe pour la transition écologique. Non, 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 on garde tout ça et on continue d'asphyxier le petit pompiste qui va continuer de galérer.
Didier, est-ce que tu as compris le mécanisme ?
Je pense que ceux qui sont visés, c'est plus les raffineurs que les...
Ah non !
Non, non, non !
Les revendeurs que les distributeurs. Enfin, moi,
j'ai... c'est pas les raffineurs.
On parle de la marge des distributeurs.
Alors là, il faut m'expliquer. Tous les patrons de grandes surfaces sont venus se succéder à ce micro pour dire qu'ils sont soit à prix coûtant, soit à 1 à 2 centimes de marge.
C'est ce que je te disais.
À un moment donné, à quoi ça sert de faire une usine à gaz comme ça sur 1 ou 2 centimes ?
C'est les marges des distributeurs, pas des raffineurs.
J'ai pas compris.
Les marges des distributeurs. Les raffineurs ne sont pas dans le dispositif.
Du coup, je ne comprends pas à quoi ça sert.
C'est pour ça que je te dis que les experts disent que ça ne fera pas grand-chose de plus.
On va encadrer le 1 centime.
Enfin, je pense que la formulation montre... tu l'as fait, Olivier, mais on peut le lier avec le premier sujet. La formulation montre que l'ENA crée des esprits malades et névrosés, parce que quand t'arrives à pondre ça, c'est qu'à un moment donné, t'as toutes les bonnes raisons pour ne rien faire, quoi. Et que les gens n'y comprennent rien. Je suis persuadé que l'administration française a une vraie consigne, c'est ne pas dépenser un centime pour le contribuable, parce que moi, je suis désolé, hein, sur le carburant, celui qui engrange le plus aujourd'hui, c'est l'État. Ils me racontent tous ce qu'ils veulent.
Non, mais ça y est, ils l'ont reconnu. Ils avaient dit zéro profit pour l'État, mais là, ils l'ont reconnu. 235
millions. Ce que font les autres États autour de nous pour baisser le prix à la pompe, c'est qu'ils baissent leurs taxes. Mais nous, on est tellement dans la merde au niveau économique avec la dette, avec toutes les concessions qu'on a faites pour faire passer un budget et pour se maintenir en place, qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix que de collecter la fiscalité qu'il y a sur le carburant, et ce, au maximum. Donc, on est incapable de baisser les taxes de l'État sur quelques produits que ce soit, et si on veut alors que si on veut vraiment faire quelque chose, on définit les professions qui ont énormément besoin du carburant, et puis on les détaxe. Voilà. Il n'y a pas 50 solutions. Aujourd'hui, on annonce partout, les marins-pêcheurs, les agriculteurs et les routiers sont aidés.
Je l'ai déjà dit, je vais le redire. La hausse du GNR, le gasoil non routier, c'est 60 centimes. 60 centimes à 70 centimes suivant les endroits en France. On nous donne 4 centimes. Donc en gros, c'est notre gueule.
Oui.
Non.
Charles.
Aujourd'hui, pour un litre à 2,31 en moyenne, la marge, elle est de 27 centimes. Voilà, la marge de ce qu'on
et
nous
la
dit.
La marge de qui?
La marge globale.
C'est pas que la marge du distributeur.
Là, c'est pas si, que
là,
distributeur.
La marge en février est à partager entre celui qui a importé, celui qui a revendu, celui qui a raffiné, celui qui a distribué.
Non, c'est pas, il y a pas 27 centimes pour le distributeur. Non.
En février dernier, le gazole était 1,70 le litre et la marge distributeur à 28 centimes. C'est ce que je vois. Aujourd'hui, pour 2,31, elle est de 27 centimes. Entre 2022 et 2023, la marge des distributeurs est passée de 7 centimes par litre d'essence à près de 25 centimes pour le gazole et de 6 à 25 centimes pour le SP95.
Ce qu'ils appellent les distributeurs, ce n'est pas que les pompistes. Hein.
En tout cas,
va plus loin que ça dans
regarde, on est 5. Pardon, mais on est plus ou moins cortiqué. Il n'y en a pas un qui arrive à piger le truc. T'as quand même...
Fait exprès.
Enfin, c'est quand même dingue.
Allez, on gagne du temps.
Mais... en tout cas, je pense que le gouvernement doit faire attention à ne pas louper le coche dans la mesure où il me semble que, comme c'est souvent le cas en cas de crise, les industriels du secteur sont en train joyeusement de profiter des hausses intervenues à cause de la guerre en Iran pour essayer de maintenir des prix plus élevés et augmenter leur marge et ne pas revenir à des prix un peu plus normaux. Je pense que si le cours du baril baisse, il faut contraindre, à mon sens, les distributeurs à répercuter cette baisse.
C'est le principe de ce décret.
Oui, mais de toute évidence... Oui, mais le problème, c'est qu'en politique, soit vous faites vraiment les choses, soit vous
faites des annonces.
Soit vous faites semblant que vous les faites. Et malheureusement, ces dernières années, on a été quand même assez singulièrement habitués à des faux semblants. Donc moi, je dis attention parce que c'est un sujet qui est très lourd pour les Français et on ne peut pas se contenter d'abord de leur mentir. Et c'est vrai que le gouvernement a beaucoup menti. Maud Bréjon a beaucoup menti ces dernières semaines et on ne peut pas se contenter à la fois de mentir et de faire semblant qu'on agit. Voilà. Alors, je pense que c'est vraiment là leur rôle
on a
de protéger
Jérôme,
les Français.
Jérôme qui est avec nous, qui est agriculteur en Seine-Maritime. Bonjour Jérôme. Vous avez compris le système ou pas?
Ah oui.
Allez-y.
Ça va tout seul.
Oui.
Le système, c'est nous la faire à l'envers comme d'habitude. Voilà. Ça, c'est la recette. Après, les 27 centimes de marge, c'est pas les distributeurs.
Mais non.
C'est réparti entre tous les acteurs, c'est-à-dire le raffineur, t'as le transporteur, t'as les distributeurs et t'as le pétrolier. Bon, tiens, une bonne nouvelle pour notre ami agriculteur, le GNR, aujourd'hui, il est à 1,72 hors taxe, il y a plus de 2 euros. Voilà, allez, continue à bosser mon petit gars.
Ça va, je suis éleveur, moi, j'en consomme moins qu'en Charente-Maritime.
Mais Jérôme, pour vous, ça a eu quelle incidence, là, l'essence, là, les augmentations?
Mais je vous dis, moi je m'en fous, je subis, je suis comme les autres.
Ouais. Ah oui.
Bon, je me suis payé un V6, 3 litres 2. Voyons, ça marche bien. Mais qu'est-ce que ça suce? Ouais. Mais bon, l'État s'en fout. L'État s'en fout.
Et mais c'est-à-dire que vous voudriez qu'il joue sur les taxes?
Là, l'État, il va nous enfumer en disant, on va aller contrôler les distributeurs qui font aller 5 centimes. Bon, mais lisser sur 5 jours son prix, c'est pas possible. Un hypermarché, mettons, qui passe 2 ou 3 camions par jour. C'est-à-dire, un camion, c'est 30 000 litres. Donc, 90 000 litres par jour. Comment voulez-vous qu'il lisse son prix en gardant sa petite marge de 5 centimes? Sur les 5 jours, avec toutes les variations, il est mieux de ne pas vendre de carburant, sinon il risque de se planter sur son prix et puis de bouffer de l'argent. Donc, voilà, c'est mort.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ce que l'on met derrière le thème distributeur. Distributeur, on englobe le pétrolier, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'acteur historique. On a ensuite ce qu'on appelle les distributeurs indépendants, et ensuite on a la grande distribution. Donc en fait, ils sont trois à se partager, si vous voulez, 25 centimes, on va diviser ça comme ça.
Celui qui l'amène.
Et celui qui l'amène, le transporteur.
Et du coup, si donc tu c'est les écoutes individuellement, personne n'a de marge.
Mais oui.
Alors qu'on sont à 3, 5, entre 3 et 5
écoute,
centimes.
Écoute, moi, j'ai écouté Schellcher dire on est à prix coûtant. Mais dans oui, les parce super-E, en fait, on est à prix coûtant.
Pourquoi c'est si cher? C'est parce que le baril de pétrole est autour de $100. Voilà. Enfin, il ne faut pas chercher midi à 14h.
Oui. Ils sont quasiment à prix coûtant, les cultivateurs, ils donnent...
On a perdu.
Mais non, mais ce qui est quand même fatigant, c'est qu'on voit que nos voisins européens se sont donné des marges de manœuvre. En Allemagne, en Espagne,
en Italie.
L'Italie est un pays très endetté aussi. Bon, ils ont proposé des ristournes fiscales, c'est vrai que ça a un coût, mais c'est des choix politiques. C'est-à-dire, Sébastien Lecornu pourrait très bien dire, par exemple, on renonce à ce fameux certificat environnement, cette écotaxe en quelque sorte, qui n'est pas dans le budget de l'État, donc ça ne jouerait pas sur le budget. On la suspend le temps de passer la crise pendant quelques mois. Pourquoi c'est 15 centimes d'un coup. C'est plus intéressant que les 3-4 centimes qu'on va essayer de récupérer
on
sur les marges.
On a Brice qui veut intervenir, le faire, qui est conducteur de TER. Bonjour Brice.
Salut à tous.
Bienvenue. Est-ce que vous avez compris le système ou comme Jérôme, vous êtes là, vous baissez les bras et dites, on subit et puis voilà quoi.
Non, j'ai compris le système. Ils vont nous fournir le poppers dans pas longtemps. parce qu'en fait, là, ils sont en train de faire coup double en fait. Ils nous pompent, mais dans tous les sens du terme, hein, d'accord. Ils nous pompent et en plus, ils vont sur leur projet électrique comme ça à pleine balle. En fait, c'est c'est du gangbang quoi. Voilà, c'est un gangbang.
Oh là! C'est voilà. Chaud chez vous.
Ah ouais, c'est chaud là. Ouais.
Poppers, gangbang, ça va en ce moment la vie, Brice?
Non, c'est pas le bête. Comme un coucou suisse là.
Ouais,
franchement, ils nous prennent vraiment pour des quiches quoi. Et le seul que ça peut faire peur de prendre des décisions, c'est Lecornu lui-même. Il est nul, il est incompétent. Par contre, je voudrais dire en fait, le Parti socialiste, on les entend plus en ce moment.
Mm-hmm.
Hein, on les entend plus.
Hein. Bah, oui, sur le premier.
Le projet de loi de finances, il est quand même passé grâce à eux. Hein. Ah, merci pour le certificat.
Ah oui, c'est eux qui nous mettent là-dedans.
Merci pour l'écologie punitive. Mais vous allez voir, hein, les retombées économiques vont être terribles.
Mm-hmm.
Elles vont être bien pires que ce qu'ils peuvent prendre à la pompe. Hein, parce qu'ils vont en lâcher 10 fois plus. Hein. Mais ça, ils veulent pas voir. En fait.
Oui, d'ailleurs, c'est les perspectives économiques, ce qu'on disait hier. C'est-à-dire que le niveau de faillite n'a jamais été aussi haut. Depuis le début de l'année et malheureusement les effets de la crise qui se passe sur le carburant vont se faire sortir dans les semaines et les mois à venir. Mais Brice, vous nous disiez, je suis remonté comme un coucou en colère aussi, on va voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous estimez que le gouvernement se moque de nous avec cette histoire d'encadrement des marges des distributeurs qui eux-mêmes sont en colère en disant celui qui ramasse le plus au passage, oui. C'est quand même l'État, c'est pas nous.
Ils en ont marre d'être pris pour des boucs émissaires.
Ce qui spécule le plus, c'est l'État et le raffineur, c'est les deux seuls sur qui on tape pas, qui font pas d'efforts.
Lecornu se fiche-t-il de nous? C'est oui, clairement, à plus de 92%. Voilà, mon cher Brice, vous êtes dans les 92%. Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas, restez avec les GG, avec les grandes gueules. On est en direct sur RMC et RMC Story. Dans le on s'en fout, on s'en fout pas. Des enquêteurs empêchés d'aller enquêter à l'Élysée.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules avec vous bien sûr au 32-16 pour discuter, pour débattre. Les grandes gueules qui vous donneront la parole tout à l'heure à 10h. Vous savez, dans le cadre de remboursement de la dette, aujourd'hui c'est intéressant de voir ce que les Français préféreraient. Eh bien certains préféraient toucher moins de retraite plutôt que de travailler plus. Donc est-ce que... Venez en discuter avec nous
sur l'ambition des Français.
Pour aider la France à se redresser, est-ce qu'il faut travailler plus ou renier sur les retraites? C'est au 32-16 que vous venez en parler. Donc, il sera tout à l'heure à 10h. En attendant, c'est long, on s'en fout pas, avec Didier Giraud, Charles Consigny, Laura Varton-Martinez et bien sûr Anaïs Inès Sainz.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. L'Élysée qui refuse l'accès à des enquêteurs venus pour une perquisition hier, on s'en fout ou pas? Laura.
On s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Didier.
On s'en fout pas.
Oui, les policiers de la brigade financière et anticorruption étaient venus dans le cadre d'une enquête sur les conditions d'attribution des cérémonies de panthéonisation à une seule et même entreprise. Eh bien, ils ont été éconduits par l'Élysée qui a fait valoir son droit constitutionnel, hein, le palais présidentiel est inviolable selon la Constitution. Alors cette affaire vise des soupçons de favoritisme, bénéficiant donc à une société qui, selon le Canard enchaîné, décroche depuis plus de 20 ans l'organisation de toutes les cérémonies de panthéonisation. Chacune serait facturée à l'État autour de 2 millions d'euros. Charles, pourquoi tu t'en fous pas ?
Alors, plusieurs choses. D'abord, je suis old school, je suis un vieux gaulliste et je trouve remarquable que l'Élysée ait fermé ses portes à cette perquisition. Je pense que les perquisitions visant tous azimuts le monde politique deviennent très excessives.
Pour l'affaire Benalla, ils avaient accepté la perquisition.
Oui, mais je pense qu'ils auraient déjà dû la refuser.
C'était, c'était des jeunes bleus à l'époque.
Je suis favorable à la raison d'État et à ce que deux, trois institutions résistent encore à la folie répressive.
On peut perquisitionner des partis.
De juges saisis du bris.
Des partis, des responsables politiques, mais pas l'Élysée.
L'Élysée, c'est sacré, oui. Premièrement. Deuxièmement, cette histoire, on verra ce qu'il en est vraiment. Moi, ce que je pense surtout, c'est que avec les moyens dont dispose l'État, je ne comprends même pas qu'on sollicite des prestataires extérieurs. Au-delà de la question de savoir si cette boîte en question a bénéficié d'un traitement de faveur, puisque c'est ça qui est soupçonné,
comme tu y vas.
Si j'en crois la presse, je trouve que je ne suis pas sûr, il faudrait voir, mais quand on a enterré Jean Moulin au Panthéon et que Malraux a prononcé l'un des plus grands discours de l'histoire... Mmh. Je ne suis pas sûr qu'on ait filé 2 millions d'euros à une boîte pour organiser l'événement.
Non, ça devait coûter beaucoup moins cher.
Je pense qu'on a pris 3 gendarmes, on a mis un micro, un drapeau, on a assis les ministres en randonnion, et c'était bien suffisant. Donc,
et ça a fait le boulot.
Donc, 2 millions, ça paraît énorme.
J'aimerais bien qu'on en revienne à
plus
ça.
Plus de sobriété.
Voilà, c'est tout ce
pour
que
j'ai
mais
est-ce qu'on s'en
non, mais moi, ce qui me rend dingue, c'est la somme. Mais en dehors de l'attribution du marché public, et je suis d'accord avec toi, Charles, sur le fait que l'État paye pour faire des choses que ses fonctionnaires ne font pas. C'est quand même un des problèmes. C'est quand même comme ça qu'on a cramé la caisse depuis 15 ans. Quoi. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la somme. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent justifier pour 2 millions d'euros? Est-ce que les gens se rendent compte? C'est quoi 2 millions d'euros?
Peut-être
quoi
qu'il faudrait
c'est énorme en fait, 2 millions d'euros.
Didier,
quoi.
Peut-être qu'il faudrait un décret pour voir les marges aussi.
Non. Ce qu'il faut, c'est que l'État arrête de payer pour faire le boulot que ces agents ne font même pas et sont en RTT ou en maladie ou en placard.
Ils sont peut-être pas compétents pour organiser ce type
arrêter,
de cérémonie.
Quoi. Ou alors à ce compte-là qu'on dégage tout le monde dans l'administration. Si on fait tout faire au privé avec des marchés publics, peut-être qu'on sera plus efficace. Mais on dégage les gens de l'administration qui sont clashés dans le placard.
Non mais ce qui est
placard,
bizarre, c'est la seule et même boîte qui depuis 22 ans... organise cela.
Il doit y avoir donc un petit problème dans les marchés publics.
Pas
quand
de
même.
Mise en concurrence, jamais de mise en concurrence.
Non, même sans mise en concurrence. Enfin, je veux dire, pourquoi c'est pas ce qu'ils veulent. Ils sont tous complètement neuneux dans leur narcissisme et ils veulent du grand spectacle. Oui. Donc il faut des caméras sur des grues, il faut des perspectives, il faut donner aux gens du spectacle. Moi, je pense que enterrer un héros français au Panthéon, ça ne nécessite pas la sobriété.
Oui, mais c'est devenu un spectacle télé.
Serait plus digne.
Il y a des artistes, des chanteurs.
Oui.
Non, mais moi c'est.
Il y a des artistes qu'il faut payer.
Ce que j'aimerais savoir, effectivement, comme dit Didier, quelle est la nécessité de dépenser autant d'argent? Et puis quand on a quelque chose qui évolue, qui grandit, c'est quand même depuis Chirac qu'ils s'en occupent, depuis 2023 que l'enquête est ouverte et on n'en a jamais entendu parler. C'est quand même un peu louche. Et ensuite, je suis désolée, moi j'estime que l'Élysée, comme n'importe qui sur dans ce joli pays qu'est la France, doit rendre des comptes de surcroît quand c'est un compte.
Donc il faut laisser, entrer les magistrats.
Monsieur de Talleyrand qui est à côté de moi, on ne touche pas à l'Élysée.
Je suis désolée, c'est que quand tu vois.
Donc toi, il fallait laisser entrer les magistrats.
Mais évidemment, quelle est la réaction de tout le monde? On se dit, ils ne nous laissent pas rentrer. Donc le premier réflexe de tout le monde, c'est de nous dire, il y a un truc. C'est-à-dire qu'ils doivent toucher des pots de vin, ça veut dire peut-être qu'il y a une enveloppe par en dessous. Si tu me fais bosser, je te file ça. On ne sait pas, on se demande. Et le problème, c'est que de ne pas laisser rentrer, il y a toutes ces spéculations.
Ça crée la suspicion.
Non, mais attends, l'enquête peut quand même se poursuivre sans cette perquisition.
D'ailleurs, déjà, à partir du moment où il n'y a pas d'appel d'offres, moi, je n'ai pas compris. C'est une obligation légale, normalement.
Avis aux vapoteuses, Laura, et aux vapoteurs. Une association propose de limiter drastiquement le marketing des cigarettes électroniques en instaurant un emballage neutre sur tous les produits de vapotage. On s'en fout ou pas ?
On s'en fout pas.
Charles ?
On s'en fout.
Complètement.
C'est Contrefeu, l'ex-alliance contre le tabac, qui veut lutter contre la consommation des mineurs en encadrant aussi la dénomination des arômes de cigarettes électroniques. Un adolescent de 13-16 ans sur deux se met à vapoter à cause des saveurs fruitées ou sucrées que les fabricants proposent.
Mais c'est ça, on voit
toi
que...
Toi qui vapotes, tu vois.
Oui, mais alors moi, du coup, je vapote un truc au tabac, sans goût, sans rien.
T'as pas des petits goûts bubblegum
ou... Non, parce que justement, je ne veux pas tomber dans ce cercle...
Fume alors, si t'es au tabac.
Goût tabac. Je veux pas tomber dans ce cercle vicieux où du coup, tu deviens addict à autre chose.
Ça fait combien de temps que tu vapotes?
Ça va faire 2 ans, 3 ans.
Ah oui?
Ouais.
Tu fumais beaucoup avant?
Ouais, j'étais à 2 paquets par jour.
Et tu n'arrives pas à arrêter le vapotage?
Pour le moment, non. Pour le moment, non.
Mais tu ne fumes plus?
Mais je ne fume plus.
2 paquets par jour, hein, ouais.
Touche plus une cigarette. Mais oui, je veux dire, la première addiction en France, c'est le sucre. Et quand, pardon, moi, quand je vois les gamins qui. C'est devenu un effet de mode, la puff. Oui. C'est devenu. Quand on avait le truc qui brillait.
C'est la mode que la clope maintenant.
Quand ils tiraient et que ça brillait de tous les côtés, c'était génial. Tu vois les packaging qui sont là pour attirer les gamins.
C'est sympa, les clopes. Moi, ça me manque un peu.
Non, mais c'est fait pour attirer les gamins. Et quand tu vois qu'un gamin de 13 ans, il se retrouve accro à un truc, moi, ça m'inquiète. Donc, si effectivement, on peut complètement.
Le paquet neutre, c'est une bonne idée.
Le paquet neutre, les goûts neutres, tu fais un truc beaucoup plus sobre. C'est censé être une transition pour arrêter de fumer. C'est pas censé inciter à fumer.
Les GG, Vianney qui a terminé sa cabane.
Ouais.
On s'en fout pas, Laura.
Non, juste parce que c'est Vianney, moi je m'en fous pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Ah bah Didier.
Oh, c'est affligeant, on s'en fout complètement.
Moi
aussi j'ai fait une cabane quand j'avais 13 ans. C'est pas passé sur les réseaux sociaux, quoi, je veux dire. La cabane au fond de mon jardin, elle est pas passée sur
la
les réseaux sociaux.
La cabane à Didier.
Mais on s'en fout.
Le chanteur avait mis sa carrière entre parenthèses pour réaliser ce projet de construction à 9 mois de travail à la seule force de ses bras. Qu'il avait entamé parce qu'il n'allait pas très bien à l'époque. Alors sur les photos qu'il a postées sur ses réseaux sociaux dimanche, on voit déjà que Vianney a entreposé plusieurs guitares et d'autres instruments pour pouvoir composer au calme. Un lit et un poêle à bois complètent le tout. Charles, pourquoi tu t'en fous pas?
J'aime beaucoup Vianney, que je tiens pour un de nos bons chanteurs contemporains. Même s'il fait beaucoup de com, je trouve que c'est un personnage sympathique. Je trouve son histoire de cabane mignonne. Et donc, je n'ai pas envie d'être rabat-joie sur ce sujet. Voilà. S'il peut nous composer des belles chansons dans sa cabane, tant mieux.
Est-ce que toi, tu aurais la tentation d'aller t'installer dans une cabane pour écrire, pour lire, pour
Ça dépend si Vianney est là ou pas. Mais Non, mais je comprends la démarche. En tant qu'artiste, il y a une seconde, je me suis exprimé en tant que vieux gaulliste. Maintenant, en tant qu'artiste... Je comprends la démarche.
C'est le multifacette aujourd'hui.
Laura, toi, tu dis, tu rêverais d'être dans une cabane
avec Vianney.
Alors non, sans Vianney, avec des bouquins. Alors Vianney qui me chante la sérénade à la limite, mais non, être seul dans une cabane au fond des bois, t'as pas de bruit, t'as pas de réseau. J'ai mes bouquins.
Mais ça, c'est ma maison, ça déjà.
Oh là là.
C'est ma maison, ça.
Oui, mais tu es dedans, Didier. Tu es dedans, et ça, c'est tout le problème. Non, moi, je trouve,
D'accord. Toi, je te retiens, tu vas voir. Je vais faire comme Sophie Duminet, tu vas voir.
Ça non, mais je trouve ça génial.
Ça se plaira, ça.
Il inspire plein de gamins. Il y a plein de gamins ou gamines qui sont fans de Vianney et de dire, j'ai dû me reconnecter peut-être à la nature et tout pour aller mieux. Je trouve que c'est une bonne initiative.
Il a les moyens de le faire aussi.
Voilà. C'est bucolique, il a les moyens de le faire, et tant mieux. Maintenant, moi, je suis contente qu'il soit fini pour avoir des nouveaux morceaux, quoi.
Ouais, oui, non, Didier, ça te gave.
Mais oui.
Et il a dit qu'il s'en foutait.
Il était très énervé.
Il a composé des chansons.
Mais à la rigueur, qu'il le fasse, ça me gêne pas. C'est la mise en scène qui me gêne.
Oui, sur ses réseaux, il a posté beaucoup.
J'arrête de composer, je monte ma cabane, et là, les vidéos sous la neige, tu parles, il neige 2 fois pas tous les 10 ans là-bas, et il monte les rodins le jour
région,
où il neige, et après, derrière ça, il va
on
composer.
On sait pas dans quelle région c'est.
Ça s'amuse.
Ça fait pas de mal.
La communication s'amuse.
Allez, dans un instant, la deuxième heure des GG, la deuxième heure des Grandes Gueules, avec au programme, plus de la moitié des jeunes refuseraient un emploi sans télétravail.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est aux entreprises de s'adapter aux jeunes ou est-ce que ils sont quand même trop capricieux? L'insécurité aujourd'hui dans les villes moyennes, ça ne cesse de monter. Est-ce que vous le constatez? Et puis le remboursement de la dette. Pour rembourser la dette, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Toucher moins de retraite,
changer de gouvernement
ou travailler plus? Alors Didier Giraud, t'inquiète pas, ce sera fait dans un an maintenant. Allez, voilà les sujets de discussion. On vous attend au 32-16 en direct sur RMC la radio et RMC Story la télé sur le canal 23 de la TNT. Il est 10h05.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.